La différence sexuelle a-t-elle un sens pour l'éternité? Approche philosophique et théologique. Tel est le thème de cette conférence que nous vous proposons de suivre. Elle a été présentée par Sophie Bingley, professeure à la faculté de théologie et à l'école cathédrale du collège des Bernardins, enregistrée lors de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des Pays de la Dour. Nous écoutons Sophie Bingley.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très impressionnée de ce public, de ce début d'année académique, et j'ai beaucoup de joie à venir vous parler de cette thématique qui m'a été demandée, puisque ça fait partie un petit peu de ce que j'ai travaillé. La thèse que j'avais écrite en études germaniques s'intitulait « La femme chez Edith Stein », et je dois dire que une réflexion, une pensée qui est intéressante, me semble-t-il, quand on veut essayer de réfléchir cette question de la spécificité homme et femme. Alors, ma pensée s'inspire de celle d'Edith Stein, donc il y a un certain nombre de textes que je vous ai proposés dans le dossier, et en même temps, je vais élargir et vous montrer l'intérêt de cette pensée. Tout d'abord, alors je n'entre pas dans les détails puisque vous aurez une session sur Edith Stein, donc mon propos c'est pas de vous faire une biographie, mais néanmoins simplement de vous dire que Edith Stein a donc une grande envergure dans le monde germanique allemand au début du XXe siècle et qu'elle va donner en 1932 un cours où elle aborde les problèmes de la formation moderne des jeunes femmes. Et donc ça, c'est en 1932, à Münster, en Allemagne. Et au semestre d'hiver 1932-1933, elle donne un cours d'anthropologie philosophique. Et elle aurait dû poursuivre avec un cours d'anthropologie théologique. Mais à cause du nazisme et de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, étant d'origine juive, elle n'avait plus la possibilité d'enseigner même dans un institut catholique. Alors, pourquoi je vous mentionne ça? Parce que c'est important de voir que sa pensée sur la femme... D'accord. Oui, je vais rapprocher.
Ça va mieux comme ça?
Donc, la pensée sur la femme d'Edith Stein est toujours liée à une pensée philosophique. Donc elle a des intuitions, je dirais, qui sont théologiques, spirituelles, qu'elle livre à l'occasion de demandes, c'est-à-dire qu'elle, comme philosophe, le sujet qui l'intéressait, c'était la personne humaine. Elle a fait sa thèse avec Edmond Husserl en 1916 à l'université de Fribourg en Brisgau, avec la mention très bien, sur l'empathie. Et donc, une question philosophique de particulière sur la relation entre les êtres humains. Comment se fait-il que je puisse reconnaître que quelqu'un est un être humain? Et donc, la question qui l'intéresse, elle, c'est vraiment la personne humaine. Dans sa jeunesse, elle a été une féministe très ardente, parce qu'elle faisait partie des premières femmes à fréquenter l'université allemande. Néanmoins, je dirais, avec le temps, cette ardeur féministe va un petit peu diminuer. Et c'est lorsqu'elle est devenue catholique, en particulier de 1928, que les milieux catholiques vont lui demander d'intervenir sur la spécificité de la femme. Pourquoi cela? Parce que, on était à une époque où les femmes accédaient à l'université de plus en plus et à toutes les professions également. Et donc, il y avait une certaine inquiétude du côté des milieux catholiques en se disant, mais est-ce que lorsque la femme travaille, elle ne risque pas de perdre quelque chose de sa spécificité, de sa vocation particulière, etc. Et dans ce contexte-là, on va l'inviter à plusieurs reprises à parler de la spécificité de la femme, l'éducation, etc. Donc, pourquoi je vous dis ça, ça veut dire que sa pensée sur la femme, cette réflexion sur la différence homme et femme, ce sont plutôt des écrits de circonstances liés à la demande ponctuelle de milieux universitaires catholiques, de milieux divers catholiques, etc. Et elle déploie à cette occasion-là donc des intuitions, elle déploie des aspects de pensée, elle commence à donner des éléments, mais ce n'est pas une réflexion aboutie. Et pour ma part, dans le travail que j'ai pu faire, c'était de me dire, mais ces conférences qu'elle fait, ces cours, quel est le soubassement philosophique, anthropologique? Quel est le lien théologique? Voilà. Donc, essayez de voir dans quel cadre elle se situait, ce qui fait que sa pensée prenait beaucoup plus de force. Ce n'était pas simplement des intuitions ou des aspects intéressants, mais vraiment une pensée qui acquérait un soubassement et des enjeux philosophiques et théologiques. Alors, dernière remarque, vous trouvez en français un livre qui rassemble donc ces cours et conférences, un livre qui s'intitule « La femme, cours et conférences », livre qui est paru en 2009. Et quand j'ai fait paraître aussi le livre, justement, « Le féminisme chez Edith Stein », c'était la même année. Et c'est pour cela que j'avais changé le titre de ma thèse, qui était plutôt « La femme chez Edith Stein », mais à cause du titre « La femme, cours et conférences », qui était l'œuvre même d'Edith Stein, j'ai proposé le féminisme chez Edith Stein. C'est un petit peu provocateur comme titre, mais pour moi, c'était surtout volontairement, parce que je pense qu'elle a une pensée qui permet vraiment de réfléchir ces questions-là. Voilà. Donc, je publiais ma thèse quelques années après l'avoir soutenue, j'avais pu aussi expérimenter l'intérêt de son approche. Voilà, alors maintenant je vais aborder le thème lui-même. Donc, j'ai posé cette question, la différence sexuelle a-t-elle un sens pour l'éternité? En fait, c'est une question qu'elle-même se pose, qu'Edith Stein elle-même pose, à l'occasion d'une conférence. Je viens de le dire, Edith Stein vient, ou peut-être je ne l'ai pas dit, mais donc elle est juive d'origine, elle vient d'un milieu juif, et cela aussi souligne la liberté qu'elle avait, c'est-à-dire qu'elle a expérimenté dans sa famille l'image d'une mère qui a travaillé, une mère qui a eu 11 enfants, 11 enfants, 4 sont morts en bas âge. Edith Stein est la benjamine de la famille. Et à la mort du papa, Edith Stein a 1 an et demi, eh bien, c'est la mère qui va reprendre le commerce de bois de la famille. Et elle, qui s'était jusque-là occupée de sa famille, devient en fait une maîtresse-femme dans le commerce du bois. Voire même que ce commerce de bois qui était plutôt mal en point sous la direction du papa va devenir un commerce florissant. Et ça, c'est intéressant de voir que pour Edith Stein, ça a été un petit peu, c'est un témoignage de l'épanouissement d'une femme dans son travail. Alors, donc ça c'est un premier point. Un deuxième point préalable aussi, c'est que, comme je le disais, les milieux catholiques étaient plutôt craintifs par rapport à la réflexion sur la femme qui émanciperait la femme en dehors de la famille. Donc on avait toujours un peu peur que la femme perde sa nature, sa vocation, sa spécificité féminine. Et alors un petit exemple pour vous dire justement combien Edith Stein va aussi être un peu pionnière dans sa réflexion, c'est qu'elle-même faisait partie d'une association d'enseignantes catholiques allemandes. Et dans cette association, eh bien, l'idée qui présidait, c'était de dire que, par exemple, une femme qui est institutrice, quand on est institutrice, il vaut mieux être célibataire. Voilà, c'est une vocation qui fait que une femme se donnerait mieux à son travail. C'était à l'époque une pensée qui était portée par cette association, et elle-même, qui en faisait partie, en fait, n'était pas d'accord en disant, mais on a l'exemple de femmes mariées qui auront peut-être un sens plus élaboré, une relation meilleure avec des enfants. Donc ça, c'est un premier exemple. Puis l'autre exemple, c'est que en septembre 1930, elle va être invitée aux journées universitaires catholiques de Salzbourg. Alors, c'est des journées qui sont les semaines universitaires de Salzbourg. Et c'était la première fois que ces semaines étaient organisées. C'est des semaines qu'elles durent encore aujourd'hui. Donc, c'est une institution qui est importante. Et en 1930, quand elles ont lieu pour la première fois, dans le nombre des intervenants, vous avez des hommes, des ecclésiastiques, des évêques, des prêtres, des philosophes. Il y a Dietrich von Hildebrand, qui est un grand philosophe catholique allemand, et Edith Stein sera la seule femme à être invitée. Alors ça, c'est intéressant parce que ça dit quand même son envergure intellectuelle dans le monde catholique germanophone. Et pour la petite histoire, normalement, elle devait parler de l'éthique des professions chrétiennes, l'éthos, la manière de travailler, de réflexion un petit peu de théologie, philosophie sociale. Et puis, en fait, son sujet, finalement, sera l'éthique des professions féminines. Donc, elle avait comme premier sujet l'éthique professionnelle chrétienne, quelle est l'éthique que l'on a quand on travaille. Et puis, son sujet va être déplacé. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est contre son gré que ce sujet a été changé. On lui a demandé cela, puisqu'elle était femme, d'intervenir. Et voilà, Mais elle va déjà, à ce propos-là, proposer une réflexion qui sera intéressante. Alors maintenant, pour avancer dans ce que je vais vous présenter, je dirais qu'elle fait face à des présupposés véhiculés par son époque. Et c'est le premier... Alors, je ne sais pas si je vous l'ai mis, finalement, celui-là comme texte. Oui, je vous l'ai mis. Donc, le premier texte, qui n'a pas encore de numéro, les autres auront un numéro, ça vous aidera, mais c'est en introduction. Donc, elle note « Aucune femme n'est uniquement femme. Chacune a sa particularité et ses dispositions individuelles, aussi bien que l'homme. Et dans ses dispositions... la capacité pour telle ou telle activité professionnelle, artistique, scientifique, technique, etc. La disposition individuelle peut en principe renvoyer à n'importe quel domaine du réel, aussi ceux qui se trouvent éloignés de la particularité féminine. Dans un tel cas, on ne doit pas parler de profession féminine. » D'abord, vous voyez qu'à l'époque, on parlait de profession masculine, profession féminine qui sont plutôt liées à ce qui concerne la maternité de la femme, c'est-à-dire le lien à l'éducation, aux soins, à la vie, à la santé, etc., etc. Autrement, des professions masculines. Or, Edith Stein, justement, remarque que les femmes ont eu accès, du fait des guerres, pratiquement à toutes les professions qui auparavant étaient réservées aux hommes, et ça manifeste leur capacité justement à être présente en tous ces lieux. Et du coup, elle veut faire sortir finalement d'une conception un petit peu féminine des professions pour renvoyer à l'individu, et chacune individuellement peut être capable d'être présente dans n'importe quelle profession. Et donc, aucune femme n'est uniquement femme dans le sens, finalement, un petit peu idéologique où on classe la femme sociologiquement dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle profession. Donc, je vais maintenant aborder ce qui est finalement le socle anthropologique de sa réflexion. Dans une de ses conférences, elle parle de la spécificité de la femme, peu importe le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se réfère à une œuvre littéraire de Ibsen, qui est un grand dramaturge norvégien, qui s'intitule « Nora, une maison de poupées ». Donc Nora, c'est une femme qui a été enfermée dans son rôle, par son père. Elle était la poupée de son père. Et puis après, elle devient plus ou moins la poupée de son mari. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais, elle n'est jamais vraiment elle. Et à un moment donné, peu importe l'histoire, mais il y a une crise, elle traverse une crise et elle va divorcer. Et Edith Stein note simplement, elle sait qu'elle doit redevenir un être humain pour pouvoir essayer d'être à nouveau une épouse et une mère. Alors, quelqu'un qui était enfermé dans un rôle social, d'être la femme, l'épouse, la mère, mais finalement jamais elle-même, elle doit redevenir un être humain pour déployer ce qu'elle est comme mère et comme épouse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans sa pensée, Edith Stein va développer un triple niveau. Il y a un niveau anthropologique, l'homme et la femme sont des êtres humains, mais chacun porte une spécificité qui est d'être homme ou femme, l'un ou l'autre, et en même temps, chacun est un individu, c'est-à-dire qu'il réalise cette spécificité masculine ou féminine avec une immense variété. Voilà. Alors c'est le premier. Alors ensuite, c'est dans les textes, c'est le premier numéro 1 que je vous ai proposé. Dans la nature de la femme est inscrite une triple exigence. Le développement de son humanité, la nature humaine dans la femme, le développement de sa féminité et de son individualité. Ce ne sont pas des buts séparés. De même que la nature de l'individu humain concret n'est pas divisée en trois, mais une nature humaine dans son expression spécifiquement féminine et individuelle. Ce n'est que la pensée abstraite, que dans une pensée abstraite, que ce qui est séparé doit aussi être évoqué séparément. Donc ces trois niveaux de la nature humaine avec une spécificité masculine ou féminine et qui est réalisée en chaque individu de façon individuelle, ces trois niveaux sont bien sûr unifiés dans chaque personne. Mais c'est important de les distinguer d'un point de vue de la pensée. Pour ce socle anthropologique, l'approche d'Edith Stein est une approche phénoménologique. Elle vient de l'école de Husserl, qui est donc une grande école philosophique qui a donné lieu à... qui a une fécondité immense jusqu'à Michel Henry, jusqu'à Jean-Luc Marion en France. On peut aussi penser entre deux, il y a... Alors, c'est un peu différent, mais Heidegger peut se réclamer un petit peu de cette phénoménologie, en tout cas de ce vis-à-vis. Et puis, vous avez Max Scheler, etc. Donc, c'est une pensée qui est très, très féconde. Et je souligne que le pape Jean-Paul II, lui-même, avait beaucoup reçu par un philosophe polonais, Roman Ingarden, que d'ailleurs Edith Stein connaissait très bien. Voilà, donc c'est pour ça que la pensée d'Edith Stein est intéressante, parce qu'elle va unir une approche phénoménologique, philosophique, comment je peux parler de la personne humaine, mais dans cette spécificité masculine et féminine, et en même temps sans l'enfermer dans un rôle ou une place simplement sociologique ou idéologique, voire même idéologique, parce que c'était très marqué à son époque, avec l'idéologie nazie. Je veux dire, sa réflexion, elle est vraiment en lien avec une époque qui enferme les personnes dans une idéologie. C'est une pensée réductrice. L'idéologie nazie a produit une pensée réductrice sur l'homme et la femme. Donc Edith Stein a cette approche-là, et d'une certaine façon, Jean-Paul II, dans ses audiences qu'il a faites sur la création, ça faisait, peut-être vous vous en souvenez, peut-être vous les avez étudiées dans vos parcours. En tout cas, Jean-Paul II a justement cette approche qui est à la fois philosophique et biblique, théologique. Et on va voir qu'Edith Stein, elle unit également les deux. Alors, du coup, dans cette approche, alors je vous dis simplement une expression, c'est pas simplement une approche conceptuelle, rationnelle, où je vais dire la femme, c'est ça, l'homme, voilà la définition, voilà la notion. En phénoménologie, on vise l'essence. On vise une essence. C'est un regard intellectuel, un regard de l'intelligence qui cherche le contenu de l'essence homme, être humain, de l'essence homme et femme, etc. Et je suis en fait dans cette recherche, d'une certaine façon, l'essence m'échappe toujours. Et pourtant, je peux en dire quelque chose. Je vais rassembler les traits d'essence qui me décrivent la personne humaine, l'homme et la femme. Donc, et en même temps, dans cette approche philosophique où je cherche, je vise l'essence de la femme, à plusieurs reprises dans son livre « La femme, cours et conférences », pour le terme « essence », elle utilise un terme latin « species ». Peu importe, mais en tout cas, c'est ni l'essence platonicienne, pour ceux qui la connaissent, c'est pas simplement l'essence, une sorte d'essence dans le ciel idéalisée ou in abstracto, mais c'est l'essence telle qu'elle se donne dans le phénomène, la femme, l'homme, que j'observe. Voilà. Alors la phénoménologie, de ce point de vue-là, est toujours très intéressante parce qu'elle renvoie à notre expérience. C'est pas d'abord un système sur tel ou tel sujet. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'être humain se donne à moi qui cherche cette essence, l'être humain se donne à connaître. L'être humain se donne à connaître à celui qui est en train de chercher l'essence qui caractérise, les traits d'essence qui caractérisent l'homme ou la femme. Alors, évidemment, il faudrait passer par tout son cours d'anthropologie. Moi, je vais y aller rapidement, mais sur quoi on va s'appuyer? Eh bien, d'abord, sur comment l'être humain se donne-t-il? Eh bien, dans son corps. La première approche que j'ai de l'être humain, c'est une approche corporelle. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de voir comment, dans son anthropologie, elle part du corps dans sa manifestation extérieure, et comment je vais discerner que ce corps humain, eh bien, il est différent d'un corps purement matériel, comme une pierre, comme une plante, comme un animal, et que le corps humain me renvoie à une intériorité. Et cette intériorité, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme humaine. Mais tout cela dans une démarche extrêmement concrète. Voilà. Il faut avoir la patience de s'interroger soi-même. Il ne faut pas vouloir avoir tout de suite la solution. Mais c'est très performant, très intéressant, parce que du coup, on peut faire prendre conscience de cette intériorité. Alors, je prends le texte numéro 2. Ce n'est pas seulement le corps qui est structuré différemment. Ce ne sont pas seulement non plus des fonctions physiologiques singulières différentes. mais c'est la vie tout entière du corps qui est autre. Le rapport corps et âme est autre. Et à l'intérieur du domaine de l'âme, le rapport esprit et sensibilité, de même que le rapport des forces spirituelles entre elles, est autre. À la species, donc à l'essence féminine, correspond unité et autonomie de l'ensemble de la personnalité corps et âme, un développement harmonieux des forces. À la species masculine, à l'essence masculine, un accroissement des forces propres en vue de performances de pointe. Alors je m'arrête parce que voilà un petit peu qu'est-ce qui est au fondement de cette réflexion. C'est que tout d'abord vous voyez que l'être humain il apparaît avec cette intériorité et ses facultés spirituelles. Alors quelles sont ces facultés? C'est l'intelligence, la liberté, la volonté, etc. Ce qu'on connaît habituellement très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on s'appuie aussi sur le rapport corps et âme. Voilà. Donc là, il y a un rapport particulier, du coup, des forces spirituelles liées à notre corporéité. Et alors, du coup, comment Edith Stein va réfléchir? C'est que la corporéité masculine ou féminine, qui est différente et que je peux repérer d'un point de vue physiologique, anatomique, etc., etc., justement, porte des caractéristiques qui ne sont pas simplement des caractéristiques corporelles, mais qui renvoient à l'âme, au principe animateur. Une autre manière de le dire. Si notre corps est structuré différemment, c'est parce que c'est pas simplement la matière extérieure, etc., mais c'est dû au principe animateur qu'est l'âme. Le corps est ainsi à cause de l'âme qui donne forme à ce corps. Ça va? Et donc, du coup, Edith Stein, dans sa réflexion, va dire « Mais le corps de l'homme et le corps de la femme renvoient à un principe qui est différencié, du coup. L'âme de l'homme et l'âme de la femme a un principe différencié en lien avec cette corporéité. » Et alors, tout cela, en fait, c'est en même temps, je dirais, elle a surtout réfléchi sur la femme. Donc, je vais vous livrer ce qu'elle dit sur la femme comme caractéristique. Elle esquisse certains éléments pour l'homme, elle ne va pas forcément jusqu'au bout, parce que ce n'était pas la demande qu'elle avait en face d'elle. Par contre, il y a certainement une réflexion à poursuivre, et surtout, c'est une réflexion philosophique, on n'est pas dans une sorte d'idéologie. Donc, c'est pour nous aider à réfléchir. Ça peut nous heurter d'ailleurs, en se disant, non, moi je ne pense pas comme ça, mais d'accord, c'est légitime, mais en tout cas, elle aide à réfléchir. Elle nous aide aussi, peut-être, à confronter, si on n'est pas d'accord, notre propre pensée. Donc, qu'est-ce qu'elle repère chez la femme? Eh bien, elle repère que chez la femme, le corps de la femme est particulièrement marqué par sa finalité maternelle. Que la femme devienne physiquement, corporellement, mère ou non. Évidemment, on le sait puisque nous vivons avec ces rythmes qui font que la femme connaît cela dans son corps. Donc je veux dire, ça la marque pendant toute sa vie, cette réalité. Et donc, du coup, pour Edith Stein, sa réflexion, c'est de voir que on peut donc parler d'une sorte de finalité spécifique qui serait la finalité maternelle pour la femme, et donc que cette finalité maternelle explique que la femme a un lien particulier à la vie, d'où sa description en disant elle saisit la personne tout entière, une mère qui a son enfant devant elle, je dirais, elle connaît son enfant. Elle sait ce qui se passe en lui. Elle sait ce qui lui arrive. Voilà. Elle saisit son enfant dans son unité. Il y a un lien extrêmement fort. Du côté de l'homme, je dirais, sa pensée est moins riche, donc je le dis tout de suite, pour que les hommes ne soient pas déçus, mais c'est à poursuivre, et voilà vers quoi on ira et ce qui me semblera intéressant dans sa pensée. Elle voit que le corps de l'homme est davantage, entre guillemets, équipé pour dominer la terre, pour transformer la terre, pour la travailler. D'où son idée de dire ces performances de pointe, cette spécialisation qui peut caractériser l'homme. Et c'est pour ça qu'elle parle de ses forces, performances, accroissement des forces en vue de performances de pointe. L'autre, enfin on va voir, on va avancer. Alors là j'arrive à un troisième texte que je ne vais pas lire, mais je vais vous expliquer le schéma que j'ai mis après. Vous pourrez le relire par vous-même, c'est un texte qui est extrêmement intéressant, extrêmement moderne, qui nous donne vraiment, je trouve, des clés de compréhension pour la pensée d'aujourd'hui qui nous confronte, entre autres, à la sex-gender théorie. Alors, même si je lis rapidement, je pointe certains éléments, quand même, avant de vous expliquer le schéma, parce que ça sera plus facile. Tout d'abord, ce qu'elle nous dit dans le premier alinéa du numéro 3, « Nous sommes êtres humains dès la naissance. » Et en même temps, je dirais, nous connaissons un déploiement, une croissance. Et qu'est-ce qu'elle note? C'est quand j'ai un être humain adulte devant moi, c'est très difficile de savoir ce qui est le résultat de la nature humaine en lui et des influences extérieures. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas se déployer sans le milieu familial, voire le milieu de la société. Donc vous avez la nécessité d'un milieu culturel pour que la nature humaine puisse grandir et croître. Seulement moi, quand je regarde l'être humain adulte, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui vient de l'apport extérieur et qu'est-ce qui vient de ce déploiement du donné naturel de départ. Vous voyez déjà, elle intègre la culture en disant « L'être humain adulte est le fruit de la nature et de la culture. » Deuxièmement, ce déploiement, dans le deuxième paragraphe, elle dira « L'humanité se présente dans une double configuration masculine et féminine. » C'est-à-dire que je nais homme ou femme. Et cette nature humaine se présente dans cette double configuration. Alors évidemment qu'il peut y avoir des cas limites, des cas où l'être humain n'expérimente pas cela. Et on le voit actuellement dans les transgenres, etc. Tout ce qui peut arriver à un être humain, c'est sûr que tout cela arrive. Néanmoins, normalement, il y a cette réalité de départ. Voilà. Et puis alors, elle va encore dire, cette double configuration, en même temps, les individus, donc on revient au troisième niveau, les individus appartiennent de naissance à l'une ou l'autre spécies, c'est-à-dire l'espèce homme ou femme. Voilà, donc moi comme individu, je nais dans une de ces configurations spécifiques, homme ou femme. Et en même temps, la particularité masculine et la particularité féminine sont quelque chose qui se développe jusqu'à l'actualisation seulement au cours de la vie. Et là, de nouveau, elle est en train de nous dire « Oui, mais ce que je suis comme adulte, homme et femme, il y a tout l'apport de la culture, de mon milieu familial, de peut-être mes expériences. » Vous voyez, elle n'enferme pas simplement dans une définition, on pourrait dire. Elle tient compte justement de ce déploiement qui fait que ce que je suis finalement, c'est quand même difficile de dire qu'est-ce qui vient de nature, de départ. Il faut tenir les deux. Et puis alors c'est là que les choses se compliquent et que le schéma va vous être utile. Donc vous voyez, dans le schéma, j'ai bien mis, vous avez tout d'abord la spécies humaine, c'est-à-dire cette nature humaine commune à l'homme et la femme. Sauf que moi, je n'ai homme ou femme. Et je ne peux pas passer de l'une à l'autre. En tout cas, dans cette pensée philosophique. Hein, voilà. Je ne peux pas passer de l'un à l'autre, puisque chacun m'est donné comme dans cette corporéité et intériorité dont j'ai parlé avant. Mais dans la spécificité masculine et féminine, il y a une multitude d'abord d'individus et ensuite de types. Donc elle introduit un troisième niveau qui est le type. Alors le type, c'est quelque chose de très... C'est une notion archi-fluctuante, pas du tout facile à définir. C'était une notion à l'époque qui était utilisée dans la sociologie, dans la psychologie. Par exemple, il y avait des livres, un livre d'une certaine Elsa Kroner qui parlait de la psychologie des jeunes femmes et puis qui avait dit il y a le type maternel, il y a le type romantique, il y a le type artistique, il y a le type intellectuel, etc. etc. Mais ça varie en gros en fonction... je dirais des systèmes un petit peu qu'on met en œuvre. C'est un peu des classifications arbitraires, mais des classifications qui sont, dont Edith Stein souligne l'intérêt parce qu'elle donne l'exemple d'une institutrice ou d'un instituteur qui a une classe d'enfants et une classe d'abord, soit une classe mixte, donc déjà petit garçon, petite fille, et puis après, pour enseigner, je suis obligée de regrouper les personnes que j'ai devant moi. Ça me permet de ça m'aide à atteindre les personnes. Quand je ne peux pas toutes les atteindre individuellement, je peux me dire, quand je parle ainsi, je rejoins tel genre de personnes. Ou quand je parle ainsi, ça va aider tel autre petit groupe de personnes. Donc vous voyez, quand on a un groupe de personnes en face de soi et qu'on doit travailler avec des groupes, la typologie est une notion importante. Alors pourquoi la typologie, elle est intéressante ? Parce que sur ce schéma, alors c'est jamais bon les schémas, mais bon, ça aide des fois un petit peu à clarifier. Sur ce schéma où on voit bien qu'on a d'un côté la nature humaine masculine, de l'autre côté la nature humaine féminine. Vous avez des individus qui peuvent être extrêmement proches de la spécificité de l'autre type. Par exemple, il y aura des femmes qui seront plus proches de la spécificité masculine que de la spécificité féminine que j'ai décrite avant comme maternelle. Il y a des femmes qui s'épanouissent très bien dans une spécialisation et des performances de pointe que j'ai décrites avant pour les hommes. De même qu'il y a des hommes qui vont avoir une fibre maternelle, une fibre, je dirais, de connaissance à l'égard de leurs enfants qui est bien plus proche de la spécificité féminine que ce que j'ai décrit de la spécificité masculine. Et donc, le type me permet d'intégrer justement la variété des personnes et de ne pas enfermer les individus dans un modèle restrictif et étroit. Alors, j'ai encore du temps ?
Oui.
D'accord. J'ai combien de temps à peu près ? Très bien. Bon, alors j'avance. Alors, bon ben voilà, vous avez là, j'ai décrit la typologie. Donc, je répète les trois niveaux. Nature humaine, partagée à égalité par l'homme et la femme, mais avec une différenciation liée à une finalité corporelle et intérieure, psychique et de l'âme spirituelle différente, est réalisée dans les individus. Et puis avec la notion de la typologie qui me permet de classifier les individus à l'intérieur de la spécificité masculine ou féminine. Alors, J'en viens à un bilan. Donc, alors c'est rapide, hein, mais néanmoins, vous, donc voyez, ça c'est, je dirais, je vous ai un peu donné les éléments essentiels de son approche phénoménologique et qui lui permet de différencier et de bien décrire le phénomène humain. Et en même temps, déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle intègre l'influence extérieure. Et la culture qui fait, et la typologie qui me permet de prendre en compte la variété des réalités humaines. En même temps, vous avez en fait d'autres philosophies possibles. Et on voit bien que la sex-gender théorie a aussi ses philosophes qui sont capables de déployer une pensée argumentée et en même temps qui ne reconnaîtra pas forcément la nature justement humaine dans cette double dimension. Donc finalement, dans les pensées philosophiques, on arrive, je dirais, à une sorte de limite. Et il est bon qu'on a, on n'a pas à imposer non plus une pensée philosophique à autrui. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'Edith Stein, alors comme c'est des cours et conférences, elle n'explique pas sa méthode, mais on se rend compte qu'à chaque fois, elle a une approche à la fois anthropologique et philosophique, et puis après, elle se réfère au texte biblique. Elle va voir, justement, elle se rend compte qu'il y a une sorte d'insuffisance dans l'approche philosophique. Et je vous mentionne le texte 5, où elle dit la chose suivante. « Lorsque nous essayons d'esquisser la nature de l'homme et de la femme au moyen de la connaissance naturelle, entendons la connaissance philosophique, comme le fait la phénoménologie, justement, nous obtenons, d'une part, une explication de ce qui est suggéré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'autre part, est pour nous un fil conducteur pour expliquer la matière vive, le matériel vivant offert à la vision. » Vision, parce qu'en phénoménologie, c'est important de viser la vue de l'essence, bon bref, peu importe. Mais vous voyez ce qu'elle dit là ? C'est que on peut sa réflexion anthropologique, philosophique, elle se rend compte qu'elle rejoint l'approche biblique. Et pour moi, là derrière, en fait, il y a quelque chose, je dirais, de fondamental. C'est-à-dire que l'approche philosophique ne suffira jamais. Et même d'ailleurs dans l'anthropologie, pour parler de l'être humain, l'approche philosophique peut aller très loin, peut dire beaucoup de choses, mais si je veux avoir la personne humaine dans son mystère, j'ai besoin de la révélation. Voilà. Eh bien, c'est la même chose pour parler de l'homme et de la femme. Alors là, je vous ai mis dans la bibliographie la thèse d'un auteur, Mark Timmermans, qui est un prêtre de l'Emmanuel, qui a écrit une réflexion, la différence qui enrichit, la différence sexuelle selon Edith Stein et Jean-Paul II. Parce que justement, ils ont cette même approche, enfin pas cette même, mais quelque chose de comparable dans leur manière de puiser à la philosophie et à la révélation biblique. J'en viens maintenant à la manière que trouve Edith Stein dans les récits bibliques. Dans le numéro 6, elle note « Le récit biblique ne demande pas » donc elle pense au récit de la création, hein, Genèse 1 à 3. « La différence sexuelle relève-t-elle de la nécessité ou du hasard ?» Le récit dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. » Ici réside le fait de l'unité et de la différenciation. Mais c'est une affirmation lapidaire qui demande une explication. Donc, alors voilà, c'est intéressant de voir que déjà, donc, ce qu'elle note, et elle regarde avec beaucoup d'attention, en fait, ces trois premiers chapitres de la Genèse, elle les a vraiment étudiés, voire même dans le texte hébreu, parce qu'elle est allée voir, par exemple, dans le deuxième récit, quand Dieu crée la femme après Adam et en disant une aide qui lui soit accordée. Elle va aller examiner le terme l'aide accordée, mais c'est quoi le terme hébreu? Donc tout ça pour vous dire qu'à son époque, elle regardait, en fait, elle faisait déjà une étude, on pourrait dire, biblique de ce texte, avec une grande attention au texte. Et ce qui me semble extrêmement important, alors elle ne le déploie pas, mais en tout cas moi, ça m'a toujours attiré l'attention en disant, dans le premier texte de la Genèse sur la création, la première fois qu'on mentionne la différence sexuelle, c'est avec l'homme et la femme, c'est avec l'être humain. Avant, on parle des arbres et de l'immense fécondité du monde végétal, des fruits et des fruits qui se multiplient. On parle des oiseaux et des poissons qui se multiplient et se multiplient et se multiplient, des animaux qui se multiplient et se multiplient. L'homme et la femme, vous avez la différence sexuelle. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire que ça a un sens. Ça veut dire que la création sexuée est quelque chose qui a lié à la parole de Dieu. Et alors c'est là que la question d'Edith Stein, la différence sexuelle a-t-elle un sens, une valeur pour l'éternité? Pour elle, c'est simplement lié à cette parole de Dieu de départ. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant comme réflexion. Alors, je vais prendre le texte numéro 8. Tous deux sont formés à l'image de Dieu. De même que chaque créature ne peut refléter dans sa finitude qu'une parcelle de l'essence divine, de même que l'unité et la simplicité infinie de Dieu apparaissent dans la multiplicité des créatures sous forme d'une plénitude brisée en divers rayons, ainsi la spécificité masculine et la spécificité féminine reproduisent de façon différente l'archétype divin. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est-à-dire, à l'homme et à la femme sont confiés quelque chose de particulier de Dieu dans cette image et cette ressemblance. Voilà. Alors, j'en viens à mon point suivant. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'elle va interpréter, et ça, elle fait œuvre vraiment de bibliste confirmée, quand elle interprète un récit biblique par un autre. Genèse 1, 26-28, interprété par le récit de la chute, 3, 14-19. Alors voilà ce qu'elle note. Elle remarque bien que dans le récit de la chute, l'homme et la femme ne sont pas atteints de la même manière par la parole de Dieu. Vous vous souvenez, la femme est atteinte par le combat spirituel à partir de Genèse 3, 15, quand Dieu dit « Je mettrai une hostilité entre le serpent et la femme, entre sa descendance et ta descendance. » Donc la femme est particulièrement engagée dans le combat spirituel, la lutte contre le mal. Et la femme a un lien particulier à la descendance à travers les grossesses marquées par la souffrance et à son époux, une relation qui est rendue difficile. L'homme, lui, est atteint dans son rapport à la terre, le travail qui devient pénible, et l'homme est particulièrement menacé par la mort. Alors, quelles conséquences pour Genèse 1, 26-28? Je prends le texte 11. Il y a, à l'intérieur de la finalité commune, alors la finalité commune, dans le premier récit, c'est que l'homme et la femme à égalité sont bénis par Dieu et à tous deux est donné, sans différenciation spéciale, de dominer de fructifier, se multiplier, dominer la terre. Ça, c'est le premier récit de la Genèse. Une fois que l'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, les deux sont bénis et reçoivent ce commandement de Dieu. Donc il y a à l'intérieur de cette finalité commune que je viens de redire, il y a une différenciation des tâches adaptées à la nature différente des sexes. Alors c'est là que je cite et après je commenterai. La vocation première de l'homme est la seigneurie sur la terre. La femme est placée à ses côtés comme aide. La vocation première de la femme est la reproduction et l'éducation de la descendance. L'homme lui est donné pour cela comme protecteur. Excusez-moi, la traduction n'est pas forcément excellente. C'est plutôt la procréation, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà ce qui me semble intéressant. C'est que, et le texte suivant nous dit la même chose, je le lis, la complémentarité de l'homme et de la femme, comme elle devait être dans l'ordre originel de la nature, se détache assez clairement. Ce n'est pas quand même complètement clair. Hein. On est toujours en train de chercher, je vous signale, il n'y a pas de solution toute faite. Mais enfin, voilà ce qu'elle dit. Chez l'homme, la vocation à la seigneurie apparaît comme la vocation primaire, la vocation paternelle comme la vocation secondaire, ordonnée à la vocation à la seigneurie, non pas au-dessous ou à côté. Chez la femme, la vocation maternelle comme la vocation première, la participation à la seigneurie comme la vocation secondaire inclut, cette vocation secondaire est inclue d'une certaine façon dans la vocation maternelle. Alors, quelle est sa réflexion? C'est qu'à partir du récit de Genèse 3, où on voit que après la chute, la faute, l'homme et la femme sont atteints différemment. Cela signifie que dès le début, l'homme et la femme n'avaient pas le même rapport à certaines réalités de la création. Et donc, elle propose, et moi je trouve ça intéressant, mais voilà, après c'est une piste de réflexion, c'est d'introduire justement cette notion de vocation primaire et secondaire, qui est une distinction évidemment de l'esprit, puisqu'à la fin elle dit bien que finalement la vocation secondaire est à l'intérieur de la vocation primaire, donc bon. Mais c'est de dire qu'il y a comme une vocation primaire de la femme qui est liée à la maternité et à son lien à la vie et à la descendance, et la vocation secondaire de la femme est la seigneurie, la domination de la terre à l'intérieur même de cette vocation primaire. Alors que pour l'homme, la domination de la terre est la vocation primaire, et à l'intérieur de cette domination, la paternité devient la vocation secondaire. Alors, c'est une proposition évidemment, hein, mais ça peut aider en tout cas à réfléchir. Alors, là maintenant, j'arrive plus ou moins au bout, mais je vous donne certains éléments de ce qu'est Dietstein encore approfondi, par exemple sur la spécificité féminine. Je dirais, moi, souvent, j'invite, en fait, je pense qu'il y a une réflexion à faire, il y aurait à déployer sa réflexion du côté masculin. Je vous livre ce qu'elle dit du côté féminin, mais c'est vrai, comme je vous le disais au début, elle ne dit pas grand-chose sur l'homme. Alors voilà ce qu'elle dit de la femme sur la spécificité féminine. Pour un petit peu appuyer ce que j'ai appelé cette finalité maternelle de la femme. C'est le texte numéro 13. Le devoir d'accueillir en soi un être vivant, en devenir et en croissance. La femme qui attend son enfant. De l'abriter et de le nourrir conditionne une certaine intériorité sur soi-même. La femme a un lien à son enfant. Le processus mystérieux de formation d'une nouvelle créature dans l'organisme de la femme est une unité si grande du corps et de l'âme que l'on comprend bien que cette unité marque de son empreinte l'ensemble de la nature féminine. Voilà un petit peu ça. En tout cas, d'un point de vue philosophique, hein, attention, je suis pas en train de dire que toutes les femmes sont maternelles, puisque les individus et les types nous disent que c'est pas le cas. Mais d'un point de vue philosophique et de la finalité de ce lien corporel, voilà ce que me manifeste la maternité. Et puis là, justement, Jean-Paul II, et je vous cite la lettre de Jean-Paul II sur la dignité de la femme, où il décrit la paternité et la maternité. C'est le texte 14. La maternité en tant que fait et phénomène humain s'explique pleinement à partir de la vérité sur la personne. C'est justement ce qu'a fait Dietstein. C'est qu'elle réfléchit d'abord sur la personne humaine. La maternité est liée à la structure personnelle de l'être féminin et à la dimension personnelle du don. Alors, c'est un des thèmes importants de l'anthropologie de Jean-Paul II. La maternité comporte une communion particulière avec le mystère de la vie qui mûrit dans le sein de la femme. La mère admire ce mystère par son intuition unique. Elle comprend ce qui se produit en elle. Ce genre unique de contact avec le nouvel être humain en gestation crée à son tour une attitude envers l'homme, non seulement envers son propre enfant, mais envers l'homme en général, ou envers l'être humain, une relation particulière à l'être humain, de nature à caractériser profondément toute la personnalité de la femme. On admet habituellement que la femme est plus capable que l'homme d'attention à la personne humaine concrète et que la maternité développe encore cette disposition. L'homme, même s'il prend toute sa part dans cette fonction des parents, même dans cette vocation de parent, se trouve toujours à l'extérieur du processus de la gestation et de la naissance de l'enfant. Et, à bien des égards, il lui faut apprendre de la mère sa propre paternité. Alors ça, je trouve ça, évidemment, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une parenté de pensée entre l'anthropologie de Jean-Paul II et l'anthropologie d'Edith Stein. Certains spécialistes disent aussi qu'il est probable que Jean-Paul II ait écrit cette lettre-là ou d'autres textes en ayant à l'esprit la pensée d'Edith Stein. Alors, je vais terminer avec cela. Elle déploie, c'est un autre aspect, bien sûr, de toute cette spécificité féminine. Elle dit beaucoup de choses sur l'âme de la femme. Il y a beaucoup de textes intéressants. Par contre, je mentionne simplement le fait qu'elle va mettre en lien la spécificité de la femme dans cette spécificité maternelle et qui donne la vie avec le rôle de l'Esprit Saint. Et c'est assez frappant de voir que dans son livre « La femme cour et conférence », dans des textes qui sont d'ailleurs parfois un petit peu, qui peuvent heurter dans un premier temps, où elle décrit l'âme de la femme en disant « l'âme de la femme est chaleureuse, maternelle », enfin elle donne des tas de qualificatifs, puis on se dit « mais bon, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment ça l'âme de la femme ?» Puis après, si on resitue justement dans cette dimension de finalité maternelle, on se rend compte qu'elle reporte à l'âme de la femme ses caractéristiques. Puis en fait, les caractéristiques qu'elle donne sont celles qu'on retrouve, par exemple, dans les hymnes à l'Esprit Saint, dans les séquences à l'Esprit Saint, Père des pauvres, Consolateur des affligés. Et du coup, elle-même fait le lien en disant il y a un lien particulier de la femme à l'Esprit Saint, comme si la femme portait quelque chose de cet archétype de l'Esprit Saint. Voilà.
La différence sexuelle a-t-elle un sens pour l'éternité ? Approche philosophique et théologique. C'était une conférence présentée par Sophie Bingley, professeure à la faculté de théologie et à l'école cathédrale du Collège des Bernardins, enregistrée lors de la rentrée de l'antenne de théologie des Pays de la Dour à la Maison diocésaine de Bayonne le 26 septembre 2020.